Donc, ce matin, on va essayer d'aborder une thématique qui est d'actualité, en fait. J'ai lu cette semaine plusieurs articles qui parlaient des conséquences psychologiques de l'après-confinement. Et en regardant tous ces essayistes, ces journalistes, tous ceux qui essayent de comprendre un petit peu le fonctionnement, les psychologues, les psychiatres, j'ai vu qu'en fait, on n'était pas tous égaux dans notre manière d'appréhender de ce problème-là. D'un côté, il y a les optimistes, ceux qui voient dans le coronavirus, dans le confinement, une forme d'opportunité. Eux, ils sont convaincus qu'après le coronavirus, le monde va changer en bien. Et donc, ils pensent que les gens seront plus responsables, plus respectueux de la nature, plus solidaires, que finalement, ça sera un monde meilleur quelque part. Et donc, ils voient ce temps comme une sorte de bénédiction. Il y a les un peu plus mitigés, ceux qui sont au milieu, on va dire, et eux, ils pensent que le monde va rester inchangé. Alors, pour eux, le coronavirus n'était pas si agressif que ça, ça n'a pas fait autant de morts qu'était prévu, et donc ils ont tendance à relativiser les faits, et ils vont les comparer avec d'autres phénomènes qui ont lieu, avec des centaines de morts qui ont lieu dans le monde. Actuellement, ils parlent de la malaria, il y a 237 000, alors là les chiffres datent du 1er mai 2020, mais 237 469 morts à ce jour-là, c'était pour le coronavirus, et ils le comparent à la malaria qui a fait 327 000 morts, ou au suicide, 357 000, aux accidentés de la route, 450 000 morts, victimes du cancer, 2 700 000, dans les mêmes périodes en fait, hein. Malnutrition, 3 700 000. Et maladies infectieuses, 4 300 000. Donc vous voyez, quand on compare ces chiffres à tous les autres morts, finalement, on les relativise et c'est ce qu'ils font. Et donc ça leur permet de prendre du recul. Et puis, parmi tous ceux-là, il y a aussi des pessimistes, hein. Donc là, c'est plutôt des gens comme Houellebecq. Donc ça, c'est un essayiste français qui est l'homme, le journaliste, enfin c'est pas un journaliste, mais un essayiste qui est le plus lu à l'étranger. Dans un interview, ils disent la chose suivante. Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même en un peu pire. L'épidémie de coronavirus devrait avoir pour principal résultat d'accélérer certaines mutations en cours, dont notamment la diminution des contacts humains. Si Houellebecq dit vrai, alors on doit s'inquiéter. Bon, on n'est pas le seul à dire ces choses-là. Je vous cite ici un psychanalyste, il dit, il y aura un climat de peur car le virus circulera toujours, il faut s'attendre à une augmentation des angoisses. Les gens vont avoir peur de se faire infecter, de tomber gravement malade, c'est ce qu'on appelle la nosophobie. Avec le déconfinement, certaines personnes qui n'étaient pas hypochondriaques vont le devenir. J'espère que ça ne sera pas votre cas. Un psychiatre dit la chose suivante, cette situation va être compliquée car on va mettre le pied dans quelque chose que l'on déteste, l'imprévisibilité. Le déconfinement de la population va entraîner un vécu d'insécurité mêlé à de la colère, ce qui peut engendrer des comportements excessifs. Et là, je me dis, waouh, ça c'est un tableau, alors c'est assez rapide, mais ça nous montre qu'on peut avoir différentes perspectives sur la même situation. Et donc on aborde vraiment ce problème du déconfinement, mais pas de la même, pas de manière égale. Je sais pas où penche votre cœur ce matin. Le mien, en tout cas, balance d'un côté à l'autre, avec un peu d'incompréhension d'un côté, un peu de doute, mêlé à de la relativisation, et puis aussi de l'assurance, parce que finalement, je sais où je vais. En tout cas, ce matin, j'aimerais que ce message vous permette de prendre un peu de hauteur. On va voir comment Dieu œuvre, au travers de la vie du prophète Élie alors qu'il est isolé et qu'il traverse une sorte de burn-out. Son histoire est une histoire vraie qui se trouve dans le livre des Rois, le premier livre des Rois au chapitre 19. Ça a lieu à peu près 9 siècles avant Jésus-Christ sous le règne du roi Akab, qui était, soit dit en passant, le pire roi qu'il ait jamais eu en Israël. Akab, il va régner sur Israël, donc c'était le royaume du nord, parce que le royaume du nord et du sud étaient divisés. Il va régner entre 874 et 853. Et alors qu'au royaume du sud, c'est Josaphat qui régnait. Et donc les deux rois qui étaient opposés vont se rapprocher. Mais ils vont pas se rapprocher pour faire le bien, ils vont se rapprocher pour mieux adorer le dieu Baal. Qui était ce Baal? Eh bien, c'était le dieu de l'orage, le dieu de la pluie. Et on peut imaginer que dans une société agraire, comme c'était le cas en Israël, au milieu du désert, on ait besoin d'eau et de pluie. Et donc, c'était une grande tentation pour Israël de s'adresser à un dieu spécifique pour la pluie, parce que c'était, bon, Baal était reconnu comme le dieu de la pluie, mais aussi le dieu de la fertilité, le dieu des céréales. C'était un peu le Kellogg's de l'époque. Et donc, Élie va intervenir dans cette période clé, et donc il va jouer le rôle du poil à gratter. Élie est celui qui va dénoncer, en fait, cette idolâtrie, et il va faire des reproches au roi Achab, et on va le voir, à sa femme Jézabel, et ça va lui porter préjudice. Avant de comprendre l'histoire de Romains 10, de 1 roi 19, il faut se resituer un petit peu le contexte et comprendre d'où vient Élie. Parce que finalement, dans le livre des rois, Élie prend beaucoup de place. Et si on comprend un petit peu comment Dieu a préparé avant d'arriver au chapitre 19, c'est important. Déjà au chapitre 17, Élie doit annoncer une grande sécheresse à Achab. Vous voyez, il commençait à s'adresser au dieu Baal, enfin il ne commençait pas, il s'adressait depuis longtemps au dieu Baal, et Dieu vient les défier et il demande donc à son prophète d'aller les défier sur ce terrain-là, sur la pluie, et il annonce une grande sécheresse. Il ne dit pas combien de temps, on sait que ça va durer 3 ans et demi. En tout cas, il dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Et donc Élie fait son annonce et Dieu l'envoie près d'un torrent. Et là, pendant quelque temps, Élie va expérimenter la grâce de Dieu, la toute-puissance de Dieu, parce qu'il va être alimenté par voie aérienne. Alors c'est pas un drone, hein, il n'est pas livré par Amazon avec un drone, mais c'est un corbeau qui va venir lui donner à manger un kebab chaque jour. Matin et soir, il aura de la viande et du pain. Donc là, il faut s'imaginer. Alors ce matin, j'ai un petit public avec moi. On a des amis qui sont dans la salle. On a le droit de se rassembler. J'ai ma famille. Donc si vous entendez rire, vous avez le droit. Hein, je vous l'autorise. Ça m'aide un peu parce que moi, je prêche à une toute petite caméra. Donc, en tout cas, donc Dieu fait ce miracle chaque jour. Et puis à un moment donné, comme il n'y avait plus d'eau, eh bien le torrent s'assèche. Et donc n'ayant plus rien pour avaler son sandwich. Dieu va l'envoyer à Sarepta auprès d'une veuve qui a un enfant. Et donc là encore, Élie va expérimenter la grâce de Dieu parce que cette femme n'avait rien à manger et Dieu va pourvoir au travers du prophète Élie. Il va faire qu'en permanence, il y ait toujours un pot de farine qui reste rempli avec de l'huile. Et donc cette dame va pouvoir lui fabriquer des belles galettes, des beaux gâteaux et ça va durer presque 3 ans. Il y a un petit épisode qu'il faut mentionner aussi, juste dans cette période, c'est que le fils de cette veuve va tomber malade et qu'il va mourir. Élie va intercéder et ce jeune homme va ressusciter. Et là, Dieu vraiment se manifeste des miracles au travers du prophète Élie et donc Élie commence vraiment à prendre confiance. À un moment donné, Dieu, pardon, va rappeler Élie et va l'envoyer auprès d'Akab pour lui annoncer que la pluie va revenir. Et donc cette pluie n'est pas encore là, mais avant que cette... Donc il fait l'annonce, il dit, voilà, Dieu va faire en sorte que la pluie va retomber, mais avant j'aimerais que tu convoques les 450 prophètes de Baal, et puis convoque aussi les 400 autres prophètes d'Astarté. Hein, ils adoraient d'autres idoles. 450 prophètes sont là, et donc Élie leur lance un défi ultime. Parce qu'il est confiant. Il sait que Dieu est vivant et qu'il va répondre à sa prière. Et donc, Élie leur dit, OK, les amis, on va fabriquer tous les deux un holocauste. Et on va demander que le Dieu, votre Dieu, fasse descendre la foudre du ciel et fasse brûler cet holocauste. Et donc, voilà nos 450 prophètes qui commencent à prier, ils se lamentent toute la journée, ils font même des scarifications. Donc, c'est une vraie boucherie à la fin de la journée. Ah, rien, nada, absolument aucune fumée qui sort de la carcasse. Et donc Élie, de manière ironique, leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à faire brûler, mais pourtant vous avez un Dieu, vous l'avez invoqué, vous êtes 450, moi je suis tout seul là, et regardez ce qui va se passer. Et donc Élie, pour leur montrer que Dieu est tout-puissant, il va pas se contenter de demander à Dieu de descendre, faire descendre la foudre du ciel, il va demander à ses serviteurs d'arroser le barbecue. Hein, c'est pas une bonne manière pour allumer un barbecue. Et il fait jeter plusieurs seaux d'eau, il fait creuser une tranchée, et donc ça baigne dans l'eau. Donc là, c'est impossible. Je sais pas si vous avez essayé de démarrer un barbecue un jour de pluie. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai dû mettre de l'essence à un moment donné pour que ça prenne. Mais c'est impossible de démarrer un barbecue, enfin du bois, qui est mouillé. Eh bien là, Élie, devant tous ses prophètes, devant le roi Achab et devant tout le peuple qui est rassemblé, il prie et Dieu fait intervenir sa puissance. Et là, il va pas simplement faire démarrer le barbecue, il va atomiser l'Holocauste. Le texte dit que, en fait, tout a été volatilisé en un instant comme ça. Ça montre la puissance de Dieu. Je sais pas quand vous faites votre barbecue, mais en général, moi, quand je fais un barbecue ou qu'on fait même un feu de camp, un gros feu, le lendemain, quand tout est brûlé, il reste encore les cailloux. Eh bien là, les cailloux et même la terre étaient pulvérisés. Il n'y avait plus rien. Pour vous montrer simplement que Dieu était tout-puissant. Ensuite, eh bien, il va se passer ce que la loi demandait, c'est que Élie va demander l'exécution des faux prophètes. C'est ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. C'est pas une chose à faire pour nous aujourd'hui, mais en tout cas, il demande à ce que ces gens soient morts, soient exécutés. C'était la loi qui l'imposait, les faux prophètes qui détournaient le peuple de Dieu, et donc il fallait les éliminer. Et donc, il va se passer cet épisode un peu tragique, mais qui était nécessaire. Et donc, on est là. Vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit est Élie. Si on se contentait juste de cette histoire, peut-être c'est ce que vous avez en tête. Hein, vous voyez Élie comme un héros, comme un homme de Dieu, un homme de foi, et peut-être que vous vous dites, waouh, ça c'était un homme, et jamais, jamais on pourra être à son niveau. Eh bien ça, c'est peut-être que vous n'avez pas encore lu le chapitre 19. Donc je vais juste vous lire les cinq premiers versets pour vous donner une idée un petit peu avec l'état d'esprit dans lequel arrive le prophète. Je lis 1 Roi 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Quel retournement de situation! Voilà notre géant de la foi qui est complètement dérouté, troublé, désemparé. Sa fuite dans le désert montre qu'il a peur et qu'il abandonne le combat. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus, se dit-il. J'ai tout essayé et il n'y a rien qui se passe. Jézabel continue de me poursuivre alors qu'elle a vu les miracles éclatants. On lui a démontré que son roi, que son maître Baal n'existait pas. Et pourtant, Élie est poursuivie et elle en veut à sa vie. J'ai l'impression que Élie vit ce retournement de situation comme un échec personnel. Il avait tellement pris à cœur sa mission de prophète que son ministère était devenu sa vie. La menace de mort de Jézabel montre que rien n'a changé, que son ministère prophétique ne porte pas plus de fruits que celui de ses prédécesseurs. Élie se sent nul, inutile. Moins que rien, au point qu'il va même réclamer la mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette expression, je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, à mon avis, ça relève une petite pointe d'orgueil chez Élie. Il se croyait un petit peu au-dessus du lot. Tous ces exploits qu'il avait faits, que Dieu l'avait utilisé, ça lui est probablement un peu monté à la tête. Et sans se l'avouer, Élie s'était pris pour une sorte d'homme providentiel. Il pensait que Dieu comptait sur lui pour remettre les choses en ordre. Il croyait réussir là où les autres prophètes avaient échoué. Et en fait, il est déçu par Dieu, parce qu'il s'attendait à ce qu'il intervienne encore de manière spectaculaire. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le contexte, on va s'intéresser à la manière dont Dieu va relever Élie. Et c'est là que vous allez lire avec moi sur l'écran. Je pense qu'il y a eu. Donc il faut revenir en arrière Et donc, c'est notre premier point. Dieu se préoccupe de son état physique et émotionnel. J'ai découpé ce message en 4 points. Et ça, c'est le premier. Dieu se préoccupe de son état physique et émotionnel. C'est ce qu'on lit au verset 5 jusqu'au verset 8. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Ici, Dieu prend soin de son corps. Il va envoyer un ange matérialisé. C'est plus une voix qu'il entend, hein, comme il entendait Dieu, mais là, il va voir quelqu'un en chair et en os. Et c'est une manifestation que Dieu veut prendre physiquement soin de lui. Vous avez probablement remarqué l'expression qui revient 2 fois. Il lui dit, lève-toi, mange. Et là, Dieu quelque part le force, le bouscule un peu, parce que quand on est en mode dépression, généralement, on a envie de rien. Si on pouvait passer notre temps dans notre lit sous la couette, eh bien c'est ce qu'on aurait de mieux à faire, c'est en tout cas ce que l'on pense. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé une période de déprime, mais si on a le privilège d'avoir une épouse ou quelqu'un ou une maman qui est dans les parages, si on est dans ce mode dépressif, eh bien le fait d'avoir quelqu'un qui nous pousse à nous lever, qui nous pousse à nous laver, qui nous pousse à manger, qui nous a préparé peut-être une biscotte avec une tisane, si on est malade, eh bien ça va faire toute la différence. Et on sait que ceux qui sont dans la dépression ont besoin des autres. Et ici, Dieu envoie un ange pour prendre soin de lui physiquement. Donc là, on voit qu'il va lui donner à manger, mais il lui demande... Quand Élie mange et il se recouche, il ne lui dit pas « réveille-toi ». Il le laisse se reposer parce qu'il sait qu'il a besoin de se reposer. Le burn-out, c'est un épuisement général. C'est un épuisement qui est à la fois physique, mais en même temps émotionnel, psychique et aussi spirituel. C'est vraiment un épuisement général. En lui donnant à manger et à boire et en le laissant dormir, Dieu va l'aider à reprendre, à retrouver un rythme biologique naturel et plus sain. Donc je disais, Dieu prend soin du côté physique, mais il prend aussi soin de son âme. Vous avez remarqué ce petit détail, c'est que le texte précise que l'ange lui a apporté des galettes chaudes, probablement sur une pierre qui était chaude, c'était la manière de faire cuire des Israélites, mais il lui amène carrément sur un plateau, quelque part, et donc ces gâteaux chauds. Pour ma part, je comprends ça comme... si Dieu mettait l'accent sur le facteur plaisir. C'est un peu la Madeleine de Proust. Quand il va manger ce gâteau, ça va lui évoquer quelque chose de positif, quelque chose qu'il a vécu, quelque chose qui va lui rappeler la main de Dieu. Et souvenons-nous, qui donnait à manger quand il était dans le désert, au bord de ce torrent? Dieu lui envoyait quoi? Du pain. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la veuve de Sarepta? Chaque jour, pendant 3 ans, il a pourvu à ses besoins au travers de quoi? Une galette, probablement chaude. Et vous voyez, ça lui évoquait certainement ces choses-là. Et Dieu le sait. C'est les prophètes, à cette époque, et puis même dans le Nouveau Testament, on voit que leur alimentation était un peu limitée. C'était un peu rustre, un prophète. Il mangeait des sauterelles. Hein, je veux dire, moi j'en ai déjà mangé quand j'étais en Thaïlande. Bon, elles étaient cuites. C'est pas mauvais. Mais bon, ça manque un peu de douceur. Eh bien, vous savez ce que faisait Dieu? Il nourrissait les prophètes. Et le texte dit ça dans l'Évangile et puis même dans l'Ancienne Alliance. En fait, il y avait les sauterelles et le miel, de la douceur. Donc, vous voyez, il y avait le côté nécessaire, les protéines, et en même temps, cette douceur. Et donc, Dieu prend soin de son âme. Quand Élie était avec la veuve de Sarepta, c'était la sécheresse. Et donc, il n'y avait pas possibilité de manger des fruits et des légumes. Et donc, il n'avait pas son ratio de 5 fruits et légumes par jour. Et donc, on sait, aujourd'hui, les nutritionnistes le disent, et là, je vais vous citer un médecin qui dit, En fait, ce que nous mangeons influence notre humeur. Et de nombreux aliments permettraient même de chasser la déprime. Oméga 3 pour l'équilibre émotionnel. Millepertuis contre le blues. Chocolat pour retrouver le sourire. Donc vous voyez, hein, faut pas vous priver de tout, parce que le facteur plaisir joue sur notre morale. Et Élie en avait besoin, et Dieu le savait. Donc vous voyez, il prend à la fois soin du côté physique. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange correctement, et il faut qu'il se repose. Et en même temps, il faut qu'il ait ce petit facteur plaisir. Et donc, Dieu va prendre soin de son âme. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de détails dans ce texte. Mais à la fin, il me semble que ça pourrait intéresser les sportifs. Vous avez remarqué, il va prendre des barres de céréales. Alors, c'est une galette, on imagine qu'il y a une céréale dedans. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il ne va plus rien manger d'autre. Vous imaginez, si vous faites du marathon, eh bien, vous voulez absolument trouver les céréales d'Élie. Eh bien, il va marcher. Et pourquoi 40 jours et 40 nuits? Bah, tout simplement parce qu'Élie a besoin de réfléchir. Il a besoin de prendre du recul sur la situation et de réfléchir aussi à ses réactions. Et c'est le deuxième point. C'est ce qui m'amène ici au verset 9, où on va voir que Dieu prend soin et se préoccupe de son état spirituel. Verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. Mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et moi, je suis resté seul. Et ils cherchent à prendre ma vie. Mais à ce moment-là, Élie percevait la réalité de manière complètement déformée. Il se croyait seul face au monde des ténèbres. Il croyait être le seul homme fidèle à lutter contre les méchants. Mais c'était faux. Pourquoi? Parce que la réalité était que d'autres prophètes encore cachés luttaient également contre Baal et Jézabel. Et là, il faut remonter au chapitre 16, où on voit Abdias qui va protéger 100 prophètes alors que Jézabel les faisait zigouiller. La réalité, c'était qu'au milieu de l'apostasie, il y avait encore 7000 juifs qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal. Et ça, c'est ce qu'on apprend après en Roi 19. La réalité était qu'Élie n'était pas dans les meilleures dispositions pour juger le cœur de tous les Israélites. Moi, il me semble que certains étaient probablement attachés à l'Éternel, mais qu'ils étaient terrifiés par la menace de Jézabel, et donc ils ont adopté un profil bas. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait Élie. Il ne va pas l'affronter, il s'en va, il fuit. Donc, il reproche finalement aux autres ce que lui-même n'est pas capable de faire. Donc, vous voyez, quand on est dans un état d'esprit comme ça, quand on broie finalement un petit peu du noir, on n'a plus les réalités. Elles sont complètement déformées. Et c'est ici que Dieu va lui poser une question. Non pas parce qu'il ignore la situation, il ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, parce que Dieu est omniscient, mais c'est pour le faire réfléchir. Le questionnement est une manière pédagogique de faire progresser quelqu'un. Si on veut grandir spirituellement, eh bien Dieu doit nous poser certaines questions. On doit réfléchir sur nous-mêmes, sur qui il est, sur quelle est ma perception de ce Dieu finalement que je crois connaître. Et donc ici, Dieu se préoccupe de l'état de son cœur, de son état spirituel. Ici, en substance, Élie dit « Mais moi, j'ai tout fait pour toi, mais je suis tout seul et on veut me tuer. » Il fait son petit caliméro, seul au monde face à tous les grands méchants. Et donc, je relis une ligne que j'avais déjà lue. Il faut comprendre ce que dit ici Élie comme un reproche vis-à-vis de Dieu. Il est un peu amer. En fait, il est en train de lui dire en substance « Ce n'est pas une bonne manière de me traiter, Dieu. » Moi, je mérite mieux que ça. T'as pas vu tout ce que j'ai fait avant? Et il va repointer finalement, et il reste sur les vestiges du passé, sur ses exploits. Et donc, il s'attend à ce que Dieu, là encore dans cette situation, intervienne d'une manière miraculeuse. Élie, en fait, était profondément déçu parce que Dieu n'avait pas répondu à ses attentes personnelles. Et honnêtement, on peut pas lui en vouloir. Parce que parfois, on fait la même chose. Hein? on pense que Dieu va réagir d'une certaine manière ou que ben, il va se passer. Je peux prendre un exemple très concret. On imaginait venir à Genève fin juillet, on a donc trouvé une maison, et puis on s'est dit, bah, c'est super, on va pouvoir venir mi-juillet, on va faire quelques travaux, on va partir faire nos camps, et puis on va revenir. Et puis, et tout ira bien, on va commencer au 1er septembre à Genève, ça sera génial. Sauf que le Covid-19 est arrivé, que notre propriétaire a pas voulu nous céder la maison avant le 25 août, et donc tous nos plans sont tombés à l'eau, et donc j'ai eu une petite période comme Élie. J'étais déçu. Je ne peux pas dire que j'étais amer, mais si ça avait été plus grave, je pense que j'aurais pu me tourner dans ce domaine-là. Attention à notre attitude, parce que c'est finalement ici que Dieu nous attend. Les circonstances, elles ne font que révéler l'état de notre cœur et finalement préciser le lieu où nous focalisons notre attention, le lieu où nous plaçons nos attentes et notre espérance. Et Dieu le sait. Et donc, Dieu va réorienter tout ça. Troisième point. Donc Dieu prend soin de son état physique et émotionnel. Il prend soin de son cœur, de son état spirituel. Et maintenant, Dieu va se révéler à lui d'une manière inattendue. En fait, il a préparé le cœur. Et donc là, Élie est prêt à entendre. On lit donc au verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. On voit ici qu'Élie n'est pas totalement guéri. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il répète exactement le même discours qu'il avait tenu auparavant. Il radote. Mais ça, c'est le propre du burn-out. Hein? On tourne en boucle quelque part à l'intérieur. C'est le genre de question qui tourne en boucle dans notre tête et qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on a toujours ces mêmes questions. Mais pourquoi moi? Je mérite pas ça, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'Élie. Mais il est en phase de progression. Qu'est-ce que fait Dieu? Il continue de le faire parler. Il lui pose la même question. Parce que Dieu sait que en parlant avec notre bouche, en exprimant notre ressenti, ce qu'il y a sur notre cœur quelque part, eh bien, c'est une manière de guérir. On va verbaliser nos émotions. On va mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et peu à peu, ça va nous permettre de prendre du recul sur la situation, sur Dieu, sur notre connaissance de Dieu, sur nous-mêmes et peut-être même sur nos ennemis. Eh bien, figurez-vous que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus réceptif à la voix de Dieu, qu'on est le plus réceptif à ce que Dieu veut nous révéler de lui, de ce qu'il veut nous enseigner. En permettant la souffrance, Dieu va attirer notre attention sur lui, au bon endroit. Et moi, je trouve ça remarquable, la manière dont Dieu s'y prend pour se manifester à Élie. Il manifeste pas ici sa toute-puissance, comme ça avait été le cas avec ses prophètes, comme quand il a ressuscité ce jeune homme. Non, il n'est pas dans le vent. Il n'est pas dans le feu. Il n'est pas dans les tremblements de terre. Pourtant, c'était des manifestations qui avaient lieu généralement pour manifester la présence de Dieu. On savait que Dieu était présent quand il y avait ça. Avant la loi, c'est ce qui s'est passé, avant que Dieu donne cette loi. Mais pas ici. Ici, on va avoir un Dieu qui va se révéler au son doux et subtil. Une voix douce et subtile. En fait, Dieu est en train de lui montrer qu'il n'est pas toujours là où on l'attend. Dieu n'est pas toujours là où on l'attend. En fait, Dieu agit la plupart du temps de façon discrète et invisible. Comme dit le texte ici, de façon subtile. Souvenez-vous ce que dit Marc, je pense qu'il est même dans les trois évangiles synoptiques. Il utilise l'image d'une semence et il dit que Dieu agit jour et nuit de manière invisible. Mais en fait, la plante, elle continue de pousser. Chers amis, ce n'est pas parce que l'on ne voit pas de manifestation surnaturelle de Dieu qu'il est absent. Vous savez, je deviens de plus en plus allergique à certaines expressions évangéliques du style Dieu était vraiment présent dans ce temps de louange. Sous-entendu, j'ai eu de belles émotions, c'est la preuve que Dieu était là. Et j'ai l'impression que les émotions ressenties attestent la présence de Dieu ou non. Certains croyants ont besoin de ressentir quelque chose pour se convaincre que Dieu est bien réel. En fait, sous l'apparence d'une piété un petit peu plus émotionnelle, se cache un manque de foi. Or, la Bible nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que dit l'apôtre Paul de Corinthiens 5, 7. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle ne vient pas de ce que l'on ressent, la foi. Ce n'est pas parce qu'on va voir des miracles que l'on va forcément croire. Les statistiques le montrent dans les Écritures. Jésus nous a dit que son Saint-Esprit serait éternellement avec nous. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous vivions un moment fort émotionnellement ou pas, n'est absolument pas la preuve de sa présence ou de son absence, ni de sa bénédiction ou de sa malédiction. L'émotion est quelque part un peu neutre. Et donc, ici, Élie est en train de réviser sa copie et Dieu se révèle justement sous une autre forme. Et non, Élie, tu n'as pas besoin de chercher constamment des miracles. J'arrive à mon quatrième point, verset 15. Dieu va confier une nouvelle mission à Élie. Et c'est le dernier point. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Ici, Dieu réoriente les yeux et les pensées d'Élie en lui confiant une nouvelle mission. Il doit commencer par oindre le roi de Syrie. C'est bizarre. Il doit bénir l'ennemi d'Israël. Pourquoi ? Eh bien parce que Hazaël allait jouer le juge et il allait châtier Israël. C'est ce que Dieu faisait dans l'Ancienne Alliance. Il doit aussi oindre le futur roi d'Israël pour remplacer Akab afin de repartir sur de nouvelles bases. Donc là, Élie va permettre à Israël de redécoller spirituellement. Il va s'appuyer sur ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Et puis, il doit nommer son successeur. Hein ? Il doit nommer et oindre Élisée qui sera le futur prophète à sa place. En fait, Élie doit passer le flambeau. Et quand j'y réfléchis, je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que fait Paul avec Timothée. Quand Timothée traverse une période de découragement, et vous pourrez lire la deuxième épître, hein, où l'apôtre Paul va lui dire, mais c'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On voit qu'il est vraiment dans une période de déprime, quoi. Et donc, il est dans un profond découragement. On connaît pas exactement les circonstances. On s'en doute. Probablement des problèmes à l'intérieur de l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église. Toujours est-il que l'apôtre Paul lui dit pas de prendre des médicaments, pas ce coup-là, mais c'est ce qu'il a fait dans 1 Timothée 5, 23, Donc ça veut dire qu'il y a un problème pour chaque solution, une solution pardon pour chaque problème. Donc à un moment donné, il lui demande de prendre un peu de vin, donc c'est une sorte de médicament, de mélanger avec son eau à cause de ses maux d'estomac. Mais là, il traverse une période de déprime, un découragement. Eh bien Dieu lui dit, et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et donc quelque part, il lui dit, passe le flambeau. Et c'est ce que fait ici Dieu avec Élie. On a vraiment deux modèles. Pourquoi il fait ça? Eh bien parce que je pense, et j'en suis pleinement convaincu, que quand on traverse des périodes difficiles, on est focalisé sur notre problème. On n'est pas focalisé sur Dieu ou sur notre mission. Au contraire, on l'oublie. Et là, Dieu va lui donner un facteur positif, quelque chose de constructif. Et pour ma part, c'est vraiment la plus grande joie que j'ai de voir quelqu'un qui va reproduire dans la vie d'un autre ce que je lui ai enseigné. Et c'est ce que fait ici l'apôtre, pas l'apôtre, c'est ce que fait Dieu avec Élie. Il va lui confier une nouvelle mission, quelque chose de constructif. Et donc, vous voyez, on a ici décrit finalement le processus global. Dieu se préoccupe du côté physique et émotionnel. Dieu se préoccupe du côté spirituel, de son cœur. Dieu va se révéler d'une manière complètement inattendue et Dieu lui confie une nouvelle mission. Voilà le mode opératoire de Dieu pour soigner, j'ai appelé ça un burn-out, vous appelez ça comme vous voulez, une déprime passagère, une dépression, un moment d'amertume, un passage à vide, peu importe. Ce qui compte, c'est de voir comment Dieu s'y prend. Et finalement, on a un vrai modèle à suivre. Je vais maintenant passer à trois applications et on en terminera là. Première application, c'est que Dieu n'agit pas toujours comme on le souhaite. Celle-là, elle était évidente, mais je pense que c'était important de le souligner. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu intervient d'une manière surnaturelle dans certaines circonstances et parfois ne fait absolument rien dans des situations qui, à nos yeux, mériteraient une intervention de sa part. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, Dieu ne destitue pas David alors qu'il commet un adultère, il va préméditer et commanditer un meurtre, et qu'en même temps, dans la même période, il va foudroyer Ouza, qui touche l'arche de l'Éternel, simplement parce qu'il allait tomber. Lui, il va tomber raide mort, alors que David reste bien en vie et va avoir un long ministère. Pourquoi? On pourrait encore citer la sévérité avec laquelle Dieu traite le péché d'Acan. Hein? Il va mourir lapidé, alors qu'il a juste pris une part du butin, une toute petite part du butin, et la grande liberté que Dieu laisse à Salomon, qui lui se vautre dans la luxure et l'idolâtrie. On pourrait encore citer la sévérité avec laquelle Dieu traite le mensonge d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Et en même temps, la liberté qu'il laisse à Saül, donc le futur apôtre Paul, commanditer et lapider Étienne, et commanditer l'arrestation de centaines de chrétiens. On ne comprend pas. Je pourrais aussi citer des exemples plus contemporains. Mon beau-père, peut-être qu'il nous écoute. Salut Jacques. En tout cas, mon beau-père, il a fêté cette année sa 86e bougie. Eh bien, vous savez quoi? À l'âge de 13 ans, Jacques a failli mourir dans une explosion. Il est resté en vie. Il est resté en vie alors que sa maman est décédée. Et à cause des graves séquelles de ses brûlures, hein, il a été brûlé au troisième degré, donc il a failli non seulement perdre ses jambes, mais tout au long de sa vie, il a eu des cancers. Et il en a eu trois. Et à chaque fois, Dieu l'a guéri. Amen. C'est Alléluia. Ça veut dire que Dieu est vivant. C'est une grâce incroyable. Je pourrais vous citer d'autres exemples, mais j'ai pas le temps ce matin. Mais ce serait malhonnête de ma part de vous dire que Dieu, il agit toujours de cette manière-là. Parce que j'ai également vu des hommes pieux, des hommes de Dieu, qui étaient fidèles. Des hommes que Dieu utilisait mourir de cancer à un jeune âge. Je pense à Reynald Kosicki. Je pense à Henri Briand. Des hommes brillants que Dieu utilisait et qui sont morts, eux, d'un cancer. Je pourrais vous citer aussi le cas d'une amie. On s'est converti en même temps. À 43 ans, elle a eu un cancer du pancréas. En 3 semaines, elle est partie. Elle laisse 5 enfants derrière elle. Une chère sœur pour qui on a prié. On n'a pas prié avec plus d'intensité pour Jacques que pour cette femme, que pour ses frères. Tout le monde a prié avec la même foi, avec la même intensité, et Dieu n'a pas répondu de la manière dont on le souhaitait. En fait, Dieu reste incompréhensible, imprévisible, mystérieux. Et en fait, Dieu est totalement libre. Ça nous rappelle notre humilité. On ne peut pas être présomptueux en annonçant une soirée guérison ou une soirée miracle, les amis. Et je pense qu'il y en a certains qui vont réviser leur copie, qui ont été touchés justement par le coronavirus. Et j'ai écouté cette semaine le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt, et j'ai vraiment apprécié son témoignage et son humilité. Et donc, ce qu'il a dénoncé finalement, ou qu'il a rappelé aux gens qui sont trop présomptueux, mais Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. On ne peut pas mettre Dieu en boîte et lui commander. Ce n'est pas un distributeur de miracles automatiques, ce n'est pas un distributeur de guérison. Dieu, nous dit le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On ne peut pas dompter Dieu, il est libre. Tout ce dont nous jouissons est que pure grâce. Dieu n'est pas à notre service, il ne nous doit rien. Deuxième application. Notre foi en la puissance de Dieu n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a certains croyants qui se sont appuyés sur des récits comme celui d'Élie pour essayer de refaire la même chose. Alors ça part d'un bon sentiment, pour prouver que Dieu existe, hein, attention, pour manifester la puissance de Dieu. Et quelque part, on serait tenté au milieu de nos collègues de travail, même à l'école, où moi je sais qu'à l'armée, on m'a dit « Ah, mais montre-moi que ton Dieu existe !» Et j'étais tenté de dire « Mais Seigneur, fais descendre la foudre du ciel et ils verront bien !» Mais non, ça se passe pas comme ça. En tout cas, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. En 2006, aux eaux de Saint-Pétersbourg, un homme a pris le récit de Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, comme un modèle à imiter. Et donc, il voulait démontrer à ses amis que Dieu était vivant et capable de le préserver des lions. Et donc, il a demandé à ses amis de le hisser dans la fosse aux lions. Donc, il a été au milieu de ses fauves. Et vous savez ce qu'il a crié quand il est arrivé en bas? Il a dit la chose suivante: Dieu me sauvera parce qu'il existe! Et il était tellement fier. C'est le Allahu Akbar des chrétiens. En fait, c'est des fanatiques. Et devinez ce qui est arrivé. Eh bien, il a apaisé l'estomac des lions pendant quelques heures. Il est arrivé ce qui devait arriver, il s'est fait dévorer. Cet homme aurait pris moins de risques en imitant Élie pour allumer son barbecue avec ses amis. Mes amis, on ne doit pas faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu est tout puissant et qu'il peut nous protéger. Vous savez qu'en plein cœur du confinement, j'ai discuté avec un frère chrétien d'un certain âge, donc qui était une personne à risque, et qui ne respectait pas les gestes barrières. Et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais excuse-moi, mais tu sais que là, on est censé prendre un peu de distance, tu dois pas me toucher, ou on doit pas s'embrasser et tout. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, Dieu prend soin de moi. Et il m'a cité le psaume 91. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot à faire. Vous savez que le psaume 91, c'est quand même le diable qui l'a cité avec Jésus, quand il était en haut du temple. Jette-toi en bas, tu verras, Dieu va prendre soin de toi. Si Dieu n'a pas choisi d'appliquer le psaume 91 et donc de se jeter, à combien plus forte raison, nous les croyants, on ne devrait pas le faire. Ce n'est pas sage. Ça enlève absolument rien à la sincérité de cet homme, hein. Mais c'est un risque inutile et une manière, quelque part, de forcer la main à intervenir dans un domaine qui nous appartient. Dieu s'attend et aime que nous prenions des risques pour obéir à sa volonté révélée. Mais quand nous prenons les risques simplement pour accomplir nos propres ambitions ou pour mettre Dieu à l'épreuve, alors là, il n'y a plus aucune promesse sur laquelle on peut s'appuyer. Dieu a promis qu'il prendrait soin de nous. Il n'a pas promis qu'il ferait des miracles. Il n'a pas promis qu'il nous guérirait à chaque fois qu'on serait malade. Troisième application et dernière, Dieu utilise les moments de crise pour parler au cœur. Mes amis, si Élie était resté sur la victoire humiliante qu'il a imposée à Akab et aux 450 prophètes de Baal, il serait probablement devenu arrogant et présomptueux. On a vu dans le texte qu'il avait une petite pointe d'orgueil, mais il aurait été beaucoup plus loin si Dieu l'avait laissé sur ce chemin. Il aurait pris un peu le melon, la grosse tête. Et dans sa souveraineté, parce que Dieu aime son serviteur, dans sa pédagogie, eh bien, il va lui permettre de passer par une épreuve difficile, qui va le faire sombrer dans la dépression, mais tout ça, c'est pour purifier son cœur, pour sanctifier son âme. Mes amis, Dieu utilise les épreuves de la vie pour se révéler plus profondément à notre cœur. Tout ça, c'est pour nous faire grandir spirituellement, pour qu'on ressemble davantage à l'image de Christ. Il nous a prédestinés à cela. On a été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Et donc Dieu va utiliser toutes les circonstances. Ça, c'est le verset qui précède Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses, y compris les mauvaises choses, les choses difficiles, les épreuves. Et je dirais pas y compris, je dirais surtout les épreuves. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Peut-être que vous êtes au cœur de l'épreuve. Peut-être que vous êtes dans le doute sur l'existence de Dieu, sur sa toute-puissance. Peut-être que vous êtes dans l'incompréhension parce que Dieu n'a pas répondu comme vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous êtes dans l'amertume. Peut-être que vous êtes dans la honte, dans la culpabilité. Peut-être que vous êtes noyé dans le péché. Sachez que Dieu vous a probablement déjà parlé ce matin au travers de sa parole vivante. Simplement parce que j'ai lu sa parole. Peut-être que dans sa grâce, il a peut-être même utilisé mes paroles. Il a su utiliser les paroles d'un âne dans l'Ancienne Alliance, il peut très bien utiliser les miennes. En tout cas, Dieu ne veut pas que vous en restiez là. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que les miracles, de beaucoup plus important que les réponses à vos petites prières et vos petits besoins personnels. Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui. Ça, c'est un message qui traverse toute la Bible. Dieu veut se réconcilier avec tous les hommes parce qu'il les aime profondément. Il vous a créés. Et comment il a manifesté cet amour-là? En envoyant son Fils. Il a prouvé, pas besoin d'autres miracles, le Christ est là. À la croix, il a manifesté sa grâce. Il a montré sa puissance. Et il a voulu, par cette croix, prendre notre péché, absorber notre péché, absorber nos manquements, absorber notre égoïsme, absorber notre hypocrisie, notre honte, notre culpabilité. Peut-être que vous êtes avec ce poids énorme ce matin qui pèse encore sur vos épaules, qui vous empêche de dormir. Et vous y pensez, et vous y pensez, et vous vous retournez dans votre lit. Dieu veut que vous lui déposiez ce fardeau-là. Vous ne pouvez pas être réconcilié comme ça. Il faut que vous réalisiez que vous avez besoin de lui. Vous devez vous repentir, reconnaître avec Dieu que vous avez fait fausse route. Et à partir de ce moment-là, placez votre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix. C'est la seule manière que vous pourrez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Dieu veut votre joie. Dieu veut que vous ayez la paix. Mais il ne veut pas vous donner simplement une paix passagère. Hein, vous achetez un bien, et là vous êtes content, ça va durer 15 jours, et après vous ne regarderez plus cette chose. Non, non, Dieu veut vous donner, veut vous réconcilier avec lui, et il veut vous donner la vie éternelle, et elle est éternelle cette vie. Donc c'est quelque chose de durable. Et avec cette vie éternelle s'accompagne la paix et la joie. Jésus est généreux, il ne veut pas se contenter de se réconcilier avec vous, mais en plus il veut remplir votre cœur. Il veut que vous développiez le fruit de l'esprit. Est-ce que vous en voulez? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est exactement ce que Jésus veut faire dans votre vie. Il veut changer votre caractère. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? On va prier et puis on va se quitter ensuite. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce passage. C'est vraiment enthousiasmant. J'étais peut-être même un peu long ce matin, mais j'ai prêché avec mon cœur et je te remercie pour Élie, pour ce modèle. Merci parce que Élie n'est pas resté sur cette montagne, mais que tu as montré que cet homme était faillible, que cet homme était finalement comme nous, fait de chair et d'os, que ce n'était pas un mini-dieu, qu'il était simplement un humain qui faisait confiance à son Dieu. Et au travers de l'épreuve, au travers d'une difficulté, tu as su le relever et lui confier une nouvelle mission. Et je te remercie parce que tu nous laisses pas sans rien, Nous qui sommes des croyants, qui avons pleinement confiance en toi, nous ne voulons pas nous appuyer sur les miracles, sur des choses extraordinaires, mais simplement sur ce que tu dis dans les Écritures. Et si nous voyons des miracles, tant mieux Seigneur, merci et alléluia. Mais Seigneur, c'est pas ça que tu es venu faire. Tu es venu déjà te réconcilier avec nous et c'est ce que tu veux nous apprendre. Et merci Seigneur, parce que c'est vraiment un message de grâce que tu es venu communiquer à Élie et à nous ce matin. Et je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les amis, ce